RCF.
Avant la reine Elisabeth qui a battu le record, la reine Victoria détenait la palme de la longévité avec un règne de 63 ans et 7 mois. Un record de longévité donc pour une femme et une période phare de l'histoire de l'Angleterre que nous allons évoquer dans ces entretiens avec vous. Neil Davy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Lumière Lyon 2 et vous êtes donc spécialiste de cette période qu'on appelle donc l'ère victorienne, l'époque victorienne, qui est une époque très connue, très repérable, avec une femme dont la renommée est internationale encore aujourd'hui, dont on parle encore, la preuve. Oui. Est-ce que cette mémoire et puis cette renommée sont dues à sa personnalité d'abord, ou bien à la longévité de son règne et puis à l'époque à laquelle elle a vécu et qu'elle incarne tout ça?
Je dirais que c'est un mélange de tout ça. C'est vrai que 64 ans sous le trône, c'est très long. D'ailleurs, une des raisons qui a fait que sa mort a provoqué tant de réactions, c'est le fait que la plupart des Britanniques n'avaient pas connu d'autres monarques pendant leur vie. Donc, elle est devenue un sorte de symbole, en quelque sorte, du pays. Donc, c'est vrai que l'Angleterre a beaucoup changé en même temps pendant toute cette période. L'Angleterre des années 1830 est très différente de l'Angleterre au début du XXe siècle.
Il semblerait quand même que son pouvoir soit assez relatif. C'est une monarchie constitutionnelle, on le verra. Oui. C'est pas une monarchie absolue.
C'est toute la complexité de la chose. Hein. On est dans une période de transition où le monarque n'a plus les pleins pouvoirs des siècles précédents, mais cherche quand même à jouer un rôle politique. D'ailleurs, Victoria va essayer de jouer ce rôle politique dans les contraintes présentes à l'époque. Parfois, elle va être en conflit avec certains de ses ministres sur ces questions. Et tous ces conflits ne vont pas être visibles, en fait, pour le public, qui vont voir seulement l'image qu'on a encore aujourd'hui de cette reine très, très sereine sur son trône, etc. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup plus de choses qui se passent.
C'est important de revenir sur son histoire personnelle, sa biographie, pour bien comprendre aussi le contexte dans lequel elle va régner.
Je pense oui. Et pendant de très longues années, on a mal compris en fait Victoria. Une des choses qui rend les choses plus complexes et compliquées pour les historiens, c'est que après sa mort, sa fille Béatrice a détruit les archives, a barré des mots, même si parfois on arrive à reconstituer certains passages. Sans doute des documents ont été détruits.
Pourquoi ?
Sans doute dans un souci de préserver l'image que ses enfants pensaient que le pays devait avoir de leur mère. Bien sûr, le problème, comme souvent font remarquer les historiens, c'est que le public est encore plus curieux sur ces parties qui ont été cachées ou oubliées. Et du coup, le tentative de contrôler l'histoire n'a pas fonctionné, visiblement.
Elle est donc née en 1819.
C'est ça. Elle est née d'un des frères droit en place, Guillaume IV. Normalement, avec plusieurs frères qui étaient mariés avant son père dans l'ordre pour la succession, normalement, elle ne devait pas devenir reine. Mais petit à petit, ses parents, en tout cas sa mère, parce que son père meurt quand il est très jeune, se rend compte qu'il n'y a pas d'autres enfants. Il y a une fille, Charlotte, qui était avant elle un moment, mais elle meurt jeune. Du coup, tout le monde se rend compte que finalement, ça va être Victoria.
Et elle est préparée à ça ? On la prépare ?
Sa mère la prépare. D'ailleurs, ça crée certains conflits parce que sa mère estime que le roi est une mauvaise influence sur sa fille.
Donc, son oncle ?
Son oncle, c'est-à-dire oui, l'oncle de Victoria. Du coup, elle est en quelque sorte séquestrée à Kensington Palace, là où elle vit avec sa mère et quelques conseillers. Elle a très peu de liberté, même à l'intérieur de ce palais. Chacun de ses mouvements sont contrôlés. On dit qu'elle ne pouvait pas monter un escalier sans être accompagnée de quelqu'un. Elle dormait avec sa mère jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Donc, c'est quelque chose, au début, sans doute comme d'autres enfants, Victoria trouve tout à fait normal. Mais quand elle devient adolescente, elle commence à se rendre compte que sa mère, en fait, la prépare pour quelque chose. Elle a 13-14 ans à ce moment-là. Il y a la possibilité qu'elle deviendra reine avant 18 ans, et du coup, il faudrait quelqu'un qui veille, en fait, ou qu'il soit...
Une sorte de régence.
C'est ça, une sorte de régence, voilà. Et en fait, c'est sa mère et ses conseillers qui espèrent jouer ce rôle.
Or, elle devient reine à l'âge de 18 ans.
C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, dès qu'elle devient reine, sa mère et tous ses conseillers que Victoria a fini par détester vont être très vite écartés.
Neil Davy, la reine Victoria donc monte sur le trône en 1837.
C'est ça.
Elle
a
18 ans,
oui.
C'est une toute jeune reine.
Tout à fait.
Le Royaume-Uni, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente en Europe et dans le monde?
C'est un pays en pleine mutation à la fois sociale et économique. On est vraiment dans la partie la plus mouvementée et rapide de la révolution industrielle. Donc il y a des transformations économiques majeures partout dans le pays, notamment au nord. L'Angleterre commence du coup à prendre une place économique très importante au niveau mondial, qui n'était pas le cas dans les siècles précédents. Tous ces changements économiques et sociaux apportent des questionnements, des débats passionnés au sein de la société britannique. Certains estiment que l'Angleterre va vers sa ruine, qu'il va y avoir un effondrement de la société.
Parce que ça bouge trop.
C'est ça. Notamment avec l'urbanisation, toutes les règles sociaux, moraux sont en train de basculer. Donc on estime que peut-être tout ça va finir par le chaos.
On, c'est-à-dire plutôt l'aristocratie.
Oui, mais je dirais que l'élite, en quelque sorte, l'aristocratie est très partagée sur ces questions. Il y a des personnes qui estiment qu'il y a vraiment une opportunité à saisir, que l'Angleterre peut devenir plus grand que jamais, plus riche, et peut-être aussi profiter pour agrandir
son territoire,
sa puissance et son territoire sur le plan international. Et puis il y a d'autres, je dirais plutôt du côté, peut-être du côté conservateur, du côté du parti Tory, qui va devenir le parti conservateur. Il y a beaucoup plus d'inquiétude.
Alors justement, vous parlez de dimension géographique. Ça comprend quoi, le Royaume-Uni, en 1837?
En 1837, en fait, les limites sont les mêmes que les îles britanniques. C'est-à-dire que l'Irlande, toute l'Irlande, fait partie du Royaume-Uni, donc le Royaume-Uni qui date de 1800. Donc l'Irlande est rentrée un peu de force parce que, notamment, la population catholique a souhaité avoir plus d'indépendance et les Anglais ont préféré
les garder
et d'ailleurs les insérer de façon plus stricte dans le Royaume-Uni, donc. Ça n'a pas, bien sûr, résolu le problème irlandais, au contraire. Mais c'est vrai que depuis une trentaine d'années, l'Irlande donc, faisait partie intégrante du Royaume-Uni, avec, bien sûr, l'Écosse et le Pays de Galles.
Et alors, l'Inde, par exemple,
ouais.
Et puis l'Empire britannique, ça date de quelle période?
L'Empire date déjà de plusieurs siècles, au début du 19e siècle, mais est beaucoup plus petite que plus tard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de territoires, et l'Inde en est un bon exemple, qui est géré de manière peut-être un peu surprenante pour nous, c'est-à-dire que c'est une sorte de colonie privée, en quelque sorte, qui est gérée par la Compagnie des Indes orientales, qui est une compagnie mise en place sous la reine, le règne de la reine Elisabeth en 1600. Au départ, c'était une entreprise commerciale, mais qui finit au 19e siècle par fonctionner, comme je disais, comme une colonie privée avec sa propre administration, son propre système juridique, son propre armée. Et du point de vue des Anglais ou du gouvernement anglais, cela fonctionne dans un premier temps plutôt bien. Parce que ça veut dire que les intérêts économiques du pays sont préservés, mais sans avoir besoin de faire tout l'investissement économique et puis logistique qui demanderait une vraie présence officielle coloniale de la part du gouvernement. Donc c'est plutôt le côté pragmatique, je dirais, qui prime à cette époque, où les Britanniques voient surtout les avantages commerciaux, en fait, de l'Empire. L'idée d'une sorte de mission de coloniser et de cultiver les peuples au monde viendra plus tard, en fait. C'est pas vraiment en place au moment où Victoria devient reine.
Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Le Royaume-Uni est une puissance sur le plan donc économique,
oui.
sur le plan maritime, évidemment, oui. sur le plan culturel aussi.
Oui.
Donc, elle se retrouve quand même à la tête d'une des plus grandes puissances du monde.
Tout à fait, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est une puissance que depuis la défaite à Waterloo en 1815, et sans concurrence, en tout cas, il y a l'idée que peut-être la Russie va devenir une puissance à craindre à l'avenir. D'ailleurs, ça va être le cas à ce moment-là que les Français et les Anglais vont s'allier contre les Russes en Crimée. Mais c'est vrai que l'Angleterre est devenue une superpuissance en quelque sorte, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique à cette période.
Et pour conclure, cette jeune Victoria, elle a les épaules assez larges?
En tout cas, elle est convaincue que oui. Son entourage n'en est pas convaincu. En tout cas, ses ministres, il y a encore l'idée, il faut dire que le Royaume-Uni n'a pas une très grande expérience de reine par rapport au roi. C'est vrai qu'il y a le bon exemple de la reine Elisabeth Ier, mais il y a d'autres mauvais exemples. En tout cas, ils sont vus en tant que tels par les ministres. Et il y a aussi toute l'idée à l'époque victorienne, on est au début de l'époque victorienne, l'idée encore que les femmes n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Donc c'est vrai que ça accompagne du fait qu'il s'agit de quelqu'un de jeune. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions.
La reine Victoria accède donc au trône d'Angleterre en 1837, Neil Davy, elle a 18 ans, on l'a dit, c'est une toute jeune reine qui va devoir faire ses preuves, dans une monarchie constitutionnelle. Est-ce que le Royaume-Uni est le seul pays d'Europe à avoir une monarchie constitutionnelle à cette époque-là, ou bien c'est déjà quelque chose qui est installé dans d'autres pays ?
Il n'y a pas d'autres pays où ça fonctionne exactement de cette façon-là. De fait, c'est quelque chose qui est arrivé à la fois avec des changements constitutionnels depuis le XVIIe siècle qui ont apporté des changements légaux par rapport au rôle du roi ou de la reine et du Parlement. Mais il y a aussi, je dirais, un aspect plutôt accidentel qui vient du fait que les ancêtres assez récents en fait, de Victoria étaient des Allemands. Qui parlait peu anglais.
Sa mère était allemande, d'ailleurs.
D'ailleurs, on dit que Victoria, quand elle était jeune fille, avait un accent allemand en anglais. Et au XVIIIe siècle, notamment avec l'arrivée de cette famille royale qui est venue de Hanovre en Allemagne, le fait qu'il parlait peu anglais a sans doute contribué au fait que du pouvoir politique a été délégué au ministre, en fait. Parce que les premiers rois Georges ne parlaient pas bien anglais, donc ne pouvaient pas présider. Lors des séances.
Donc on parlait pour lui.
Voilà, c'est ça.
À tel point que ça a modifié la Constitution.
Sans doute, ça a modifié en tout cas le fonctionnement de la Constitution. Ça a fait sans doute que le rôle du Premier ministre est apparu sans doute plus tôt que ce serait passé autrement. De fait, au moment où Victoria arrive sur le trône, la reine ou le roi n'a plus le droit de choisir son propre Premier ministre.
Comment ça se passe concrètement, une monarchie constitutionnelle en Angleterre, disons, dans la première partie du 19e ?
Ça fonctionne de la manière suivante. La reine rencontre le Premier ministre toutes les semaines. D'ailleurs, c'est toujours le cas.
Mais quand vous dites qu'elle ne le nomme pas ?
Elle ne nomme pas, non.
Qui le nomme alors ?
Ça doit être officiellement validé par la reine, mais c'est une formalité en fait. C'est la Chambre, le parti qui sort majoritaire des élections, c'est le chef de ce parti qui va être le futur Premier ministre.
Donc, qui rencontre, vous le disiez, oui. le souverain, là, en l'occurrence la reine,
oui.
une fois par semaine.
Oui, et on dit, en tout cas, là, c'est une question de la Constitution, mais je dirais des pratiques, les usages. Il n'y a pas de texte officiel qui gère cet aspect-là. La reine a un pouvoir de conseil, de mise en garde, d'encourager ses ministres, mais n'est pas censée les contredire ou essayer de les pousser dans une telle direction. Mais ça dépend aussi de la personnalité des personnes en question. Et de toute évidence, Victoria a eu envie, depuis son arrivée sur le trône, d'essayer de, je ne dirais pas de diriger, mais en tout cas d'avoir une influence sur ce ministre.
Et sa personnalité l'y aide, c'est-à-dire que naturellement, elle a ce penchant-là.
Tout à fait, oui.
Parce que c'est une femme de caractère ?
Une femme de caractère, et je crois qu'elle est élevée aussi avec cette idée par sa mère et par les conseils de sa mère, parce que c'est quelqu'un qui a un devoir, elle a un très fort sens de devoir, qu'elle doit agir pour le bien de son pays, et elle estime qu'elle a du coup un rôle à jouer. Peut-être d'ailleurs quand elle devient reine au départ, elle ne comprend pas forcément les nuances de cette relation et sans doute, je pense qu'elle elle a une idée peut-être un peu exagérée sur son influence et son rôle par rapport à ses ministres. Donc, petit à petit, elle arrive à
ajuster
choses. Voilà.
Alors, le Premier ministre en question, face à elle, qui est-ce? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une stature, qui a une forte personnalité aussi?
Oui, d'ailleurs, on dit que son premier Premier ministre, c'est le Lord Melbourne, quand elle devient reine en 1837, que c'est quelqu'un qui l'apprécie personnellement, qui apprécie Victoria, et c'est quelqu'un qui va en quelque sorte fait un peu son éducation politique. Ils vont devenir
Il y a une connivence
entre les deux. Certains historiens estiment qu'elle voit en lui un peu le père qu'elle a perdu quand elle était toute jeune. Elle passe parfois plusieurs heures par jour, même avec lui. Il parle de tout sujet possible, pas simplement des affaires d'État. Du coup, c'est un apprentissage politique pour elle, en quelque sorte. Et puis, ça aussi lui permet de comprendre un peu les limites de son pouvoir en même temps.
Où est-ce qu'elle vit?
Elle vit donc à Buckingham Palace à Londres et puis à Windsor. Et donc c'est essentiellement dans ces deux palais-là au départ. Plus tard dans son règne, une fois qu'elle est mariée, elle va s'étendre dans d'autres lieux. Mais pour le moment, c'est surtout à Londres et près de Londres où elle va vivre.
La suite de l'histoire.
Est-ce que la reine Victoria, Neil Davy, aura eu aussi des relations avec d'autres premiers ministres un peu plus chahutés, disons, un peu moins cordiales que celles que vous venez de décrire?
Tout à fait. Ses premières difficultés de ce type sont avec le premier Premier ministre conservateur qu'on rencontre, c'est Robert Peel. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout du même style que...
Ni de la même sensibilité.
Ni de la même sensibilité politique. Mais je pense que c'est peut-être en grande partie une question de personnalité. C'est quelqu'un assez austère, même un peu puritain, qui n'a pas le côté un peu convivial, même un peu paternel de son prédécesseur. Du coup, il va avoir quelques conflits avec lui. Et d'ailleurs... il va y avoir un conflit dès 1839 à propos des conseillers de la reine. En fait, l'idée à l'époque, c'était qu'avec chaque premier ministre, le personnel de la maison royale change selon les opinions politiques. C'est un peu parfois avec les changements... Comme avec
les fonctionnaires.
Le changement de fonctionnaires en France.
C'est ça.
C'est pas la même idée. Et visiblement, Victoria n'a pas... aimait l'idée qu'elle allait perdre tout le personnel qu'elle connaissait bien. Du coup, elle dit non. Et c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est un des moments où elle se rend compte, en fait, des limites de son pouvoir. Peel, sans doute pour des raisons propres à lui, dit « Si la reine n'est pas d'accord avec mon personnel, je ne veux pas être Premier ministre. »
Un bras de fer entre les deux.
C'est
donc.
Ça. Sans doute parce que le moment n'était pas idéal pour lui pour devenir Premier ministre. Donc, c'est aussi une sorte de prétexte pour lui de ne pas prendre la place. Il va la prendre 2 ans plus tard. Mais pour certains de ceux qui craignaient que cette nouvelle reine ne savait pas comment se comporter en tant que reine, cette crise a donné quelques mauvais signes. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Victoria a compris.
Elle a su tirer des enseignements, difficultés qu'elle a pu traverser ou des crises tout au long de son règne.
Oui, je pense qu'il y a surtout là une question peut-être d'immaturité politique. C'est qu'elle était après tout très jeune. Il fallait sans doute un peu de temps pour comprendre tous les rouages du système.
Vous avez parlé de ce Premier ministre Peel qui était assez puritain et conservateur.
Ouais.
Elle, comment est-ce qu'on pourrait la définir sur le plan des idées politiques, justement?
C'est un peu comme je disais sur l'image qu'on a de la reine. On parle souvent des valeurs victoriennes. On imagine quelqu'un très... très rigide, très stricte, et les images d'elle donnent un peu cette impression aussi. Même si il paraît que pour de vrai, c'était plutôt le problème avec les photographies à l'époque, il fallait pas
surtout pas sourire.
C'est ça, parce que on pouvait pas garder le sourire assez longtemps. Je pense que la réalité était plus complexe. C'était quelqu'un qui aimait rire visiblement, qui aimait les fous rires. Elle utilisait d'ailleurs le mot fou rire, le mot français, pour parler de ça. C'est quelqu'un qui voulait rire, et je pense que c'était un des problèmes avec les premiers ministres comme Peel.
Qui n'avait pas beaucoup d'humour.
Voilà, plus tard comme Gladstone, qui était pourtant de l'autre bord politique, William Gladstone, plus tard dans le siècle. C'était un peu le même type de personnalité, très intellectuelle, très austère. Elle préférait quelqu'un qui s'occupait d'elle, en quelque sorte, qui la faisait rire, comme Melbourne ou plus tard comme Disraeli, plus tard dans le siècle.
Donc elle est beaucoup moins figée et austère que l'image qu'on en a ?
Tout à fait, oui, c'est ça. D'ailleurs, là encore, ça peut paraître un peu surprenant que malgré cette image qu'on a d'elle, et d'ailleurs, beaucoup de ses opinions sont bien sûr typiques de son époque, mais elle a aussi quelques aspects, je dirais, ou quelques comportements qui sont plutôt surprenants.
Par exemple,
le fait qu'après la mort de son mari, Albert, elle va nouer une relation assez proche avec un Écossais, John Brown, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout d'une famille aristocratique, etc. C'est un serviteur au départ, mais ils vont devenir amis. D'ailleurs, ça va un peu choquer son entourage. Il y a à la fois le fait qu'elle a des rapports proches avec un homme, plus le fait que ce soit quelqu'un qui n'est pas de son rang, voilà. Et il y a plusieurs relations de ce type pendant sa vie. Vers la fin de sa vie, elle va aussi avoir des rapports amicaux assez proches avec des serviteurs indiens.
Donc elle a un côté presque un peu anticonformiste ?
Tout à fait.
On peut aller jusque-là ?
Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus
tomber dans le trac.
Oui. Et c'est vrai que parfois on peut lire certaines biographies qui donnent l'impression que c'est une sorte de rebelle dans l'âme. Je pense que c'est pas tout à fait ça.
Pas exagérer non plus.
Voilà, c'est ça. Mais elle n'aimait pas la vie de la cour, un peu figée, très...
L'enfermement, quoi.
C'est ça. Je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle a souhaité s'évader dans ses différentes maisons en Écosse ou sur l'île de Wight, où elle pouvait un peu échapper à toute cette étiquette et protocole.
Pesante.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, pendant la plupart de sa vie, en tout cas dans la deuxième moitié de son règne après la mort de son mari, souvent elle refusait ou en tout cas elle essayait de couper ses obligations protocolaires, en quelque sorte. Parfois, elles ont été en conflit avec ses premiers ministres là-dessus.
Neil Davy, la reine est une femme. La reine Victoria, donc on l'a dit, est montée sur le trône alors que, a priori, dans l'ordre de succession,
ouais,
il y avait assez peu de chances que ça lui arrive.
Ouais.
C'était des hommes qui étaient plutôt destinés à occuper cette haute fonction. Est-ce que le fait que Victoria soit une reine modifie, d'après vous aussi, la façon dont les Anglais, à cette époque-là, considèrent la monarchie et l'exercice de la royauté ?
Oui, je pense que le fait que ça soit une reine provoque beaucoup de débats. On est dans une période où on insiste beaucoup sur le fait que c'est les hommes qui ont le pouvoir.
Et c'est vrai.
Et c'est vrai, pour l'essentiel, même si, selon les contextes et selon les personnalités, il reste une certaine marge de manœuvre, je dirais, pour les femmes. Mais c'est une marge de manœuvre quand même qui est contrainte largement par la loi. Le fait, par exemple, que les femmes perdent leur propriété quand ils se marient, jusqu'aux années 1870 ou 80. Le fait que tout le monde estime, en tout cas, l'idée dominante de l'époque est que c'est l'homme qui dirige à la maison et que sa femme est là surtout pour garantir un sort de havre de paix pour son mari et pour éduquer les enfants, loin des soucis du monde extérieur.
Est-ce que cette image-là, elle est transposée à la reine ou c'est le contraire ? La façon dont la reine Victoria exerce son pouvoir modifie la façon dont les femmes vont se positionner dans la société ?
Non, je dirais pas que ça va beaucoup modifier la façon dont les femmes se positionnent. C'est vrai que dès que certains commencent à réfléchir pas pour la position des femmes en Angleterre, je dirais dans les années 1850 à peu près, certains donnent l'exemple de la reine, disant si une femme peut occuper cette place-là, pourquoi ne pas donner aux femmes une bien meilleure place par ailleurs? Mais je n'ai pas l'impression que cet argument a beaucoup d'impact, finalement, sur l'opinion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand la reine se marie en 1840, donc avec le prince Albert, très vite, le couple va reproduire en quelque sorte les rapports traditionnels entre hommes et femmes, c'est-à-dire que Albert va jouer un rôle important au sein de la maison royale, jusqu'à décider des choses comme l'éducation des enfants, s'occuper des finances royales. Et d'ailleurs, même qui peut nous paraître encore plus surprenant, il va jouer un rôle important sur le plan politique.
Jusqu'à quel point ?
Jusqu'à être présent lors des entretiens entre la reine et ses ministres. Parfois, répondre aux courriers des ministres ou d'autres personnalités, ou dicter à Victoria ses réponses à ses lettres. Et d'ailleurs, je pense que ce rôle qui évolue par Albert va être en quelque sorte plus facile pour lui à assumer une fois que Victoria commence à tomber enceinte et à avoir les enfants.
Ils en auront 9.
C'est ça, oui. Donc sur une période de 17 ans.
Donc vous dites qu'il il occupe des fonctions et puis il a un rôle très important, un peu en coulisses. Alors c'est plutôt officieux comme rôle.
C'est ça.
Mais est-ce que c'est admis par le gouvernement, notamment par le Premier ministre, ou bien est-ce qu'on voit ça d'un mauvais œil ?
Un peu des deux, en fait. Je pense qu'il y a quand même une idée assez largement répandue dans la classe politique que Albert, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un sur lequel on peut compter, alors qu'il y a parfois des soupçons par rapport à Victoria à cette époque où elle s'oppose parfois par rapport à certains projets et ses premiers ministres sont parfois frustrés par rapport à cela et voient Albert comme une bonne influence. Bien sûr, pour les hommes politiques, ça les conforte un peu dans le stéréotype des femmes à l'époque.
Comment expliquer, alors qu'elle a manifestement une sacrée personnalité, ouais, qu'elle ouais lui laisse autant de possibilités d'intervenir en fait, dans les affaires ?
Ouais. C'est en partie parce qu'elle est prête à jouer ce rôle-là, à assumer un rôle un peu en retrait par rapport à son mari, même s'il y a visiblement des conflits entre eux par rapport à ça. C'est aussi que Albert est particulièrement doué pour ce type de, pour jouer ce rôle et notamment pour manipuler sa femme. Dès qu'elle s'oppose à ce qu'il veut, il menace de ne plus l'aider ou de retirer son amour ou de partir même parfois. Peut-être elle a peut-être un sentiment d'insécurité par rapport à son amour, mais de fait, le suit dans ses ambitions à lui.
RCF, la suite de l'histoire.
Neil Davies, certains historiens parlent de double monarchie pour oui donner un peu une idée, une image concernant l'influence et la place donc du mari de la reine oui Victoria, d'Edouard. Est-ce qu'on peut aussi expliquer cette place importante qu'elle lui laisse prendre parce qu'elle est subjuguée par cet homme, parce qu'elle a un amour fou pour lui?
Tout à fait, oui, oui. On a l'image souvent des mariages entre familles royales, de quelque chose qui est organisé ou l'amour
mariage arrangé.
Voilà, arrangé ouais, où l'amour n'a pas vraiment sa place. Mais de toute évidence, ce n'est pas le cas. Même si son mariage avec Albert a été organisé par sa mère et par d'autres à l'époque.
C'est son cousin, je crois.
Oui, c'est ça. Oui. Dès qu'elle le voit, elle tombe amoureuse et c'est vrai qu'elle est subjuguée à la fois sur le plan émotionnel amoureux et aussi sur le plan intellectuel. Et je pense que c'est une des choses qui explique le fait que quand il meurt, elle est absolument effondrée sur tous les plans à ce moment-là. Elle met de nombreuses années en fait à s'en sortir à la suite.
Quel est son rôle de mère? On a dit qu'ils ont eu 9 enfants.
Oui.
Est-ce que c'est une mère attentionnée, aimante? Ou bien c'est avant tout une reine?
Je dirais que c'est avant tout une reine et une femme dans le sens là, une épouse. C'est-à-dire que elle visiblement supporte assez difficilement toutes les contraintes et les douleurs liées aux grossesses et à l'accouchement. Et aussi, à différents moments, visiblement, elle a du mal à accepter de passer du temps avec ses enfants, veut dire de fait qu'elle passe moins de temps avec son mari. Et d'ailleurs, parfois, elle en veut aussi à son mari de passer du temps avec ses enfants plutôt qu'avec elle. Donc, je dirais que ce n'est pas quelqu'un qui adore les bébés, visiblement. Elle apprend à mieux apprécier ses enfants quand ils sont un peu plus âgés. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va passer des heures et des heures avec les bébés.
On a dit que donc elle est devenue reine très jeune. Elle s'est aguerrie, en quelque sorte. Elle a commencé à être à la hauteur de cette tâche énorme. Oui. Est-ce qu'elle est petit à petit considérée et est-ce qu'elle pèse sur le plan même international? Est-ce que c'est une femme qui est connue dans le monde?
C'est vrai que c'est une femme qui est connue dans le monde et bien sûr que cela augmente avec le temps. Ce qui la permet d'avoir une influence peut-être assez vite, c'est le fait qu'elle a des relations avec les familles royales en fait.
En
Europe. Ça permet parfois de jouer un rôle sur le plan diplomatique qui n'est pas forcément connu du grand public.
Les coulisses, vous voulez dire?
Dans les coulisses, voilà. Elle est invitée parfois à un dîner avec un tel ou rencontrer un tel ambassadeur ou un ministre. Et du coup, peut jouer un rôle comme ça, notamment, bien sûr, à travers toute sa famille allemande, en fait. C'est ça qui la permet surtout de jouer ce rôle sur le plan international.
Et en Angleterre? Est-ce que c'est une reine qui est aimée par le peuple?
C'est difficile de généraliser, notamment parce qu'il s'agit, comme on disait, de presque 64 ans. Il y a une période, visiblement, dans les années 1850-60, début des années 70 peut-être, où la reine et la famille royale en général est vue comme pas forcément pertinent pour l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un peu le sentiment... En tout cas, dans certains milieux intellectuels, que l'Europe va plutôt vers des républiques et que la famille royale est un peu quelque chose d'archaïque. Et notamment, ça se passe, je pense que ce sentiment devient plus fort après la mort d'Albert, où pendant un certain nombre d'années, la reine va être très peu vue par
le
public.
Vous l'avez dit, hein, elle se met en retrait parce qu'elle est effondrée.
C'est ça. C'est vrai qu'elle continue... Parfois, même pendant cette période, a joué un rôle dans les coulisses, notamment en Europe. Mais le public, bien sûr, ne voit pas ce rôle-là. Et du coup, le fait, par exemple, qu'il n'est pas présent lors de l'ouverture du Parlement, qui est un des rôles rituels classiques du roi ou de la reine, commence à susciter des critiques, non seulement, bien sûr, chez les radicaux, les républicains, mais également chez certains d'autres. Et je dirais que c'est plutôt... dans les dernières décennies de son règne, où elle est un peu sortie de ce rôle de plutôt passif, où elle commençait à être plus présente en public, et elle retrouve aussi un peu, je dirais, sa vitalité de jeunesse avec ses premiers ministres, notamment avec Disraeli. C'est à ce moment-là, je trouve, que la famille royale redevient, en quelque sorte, quelque chose de populaire. Et c'est vrai qu'à sa mort en 1901, je dirais que la place de la famille royale est bien ancrée dans les mentalités britanniques.
La reine Victoria fut reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. À partir de 1867, elle fut également reine du Canada, impératrice des Indes à compter de 1876 et enfin reine d'Australie à partir du 1er janvier 1901. Est-ce que ces dates sont exactes, Neil Davy?
Oui, tout à fait.
Donc, autant dire qu'elle est à la tête d'un empire, d'un royaume qui est plus qu'un royaume. C'est une influence sur le plan mondial ou bien c'est juste un titre honorifique?
C'est les deux, comme d'habitude. C'est vrai qu'on dit, par exemple, pour le fait qu'elle est devenue impératrice des Indes, c'était plutôt... une façon pour Disraeli de...
Premier ministre. Hein.
Premier ministre, oui, à l'époque, Benjamin Disraeli, de lui, à la fois de flatter la reine et aussi donner peut-être un aspect un peu plus glorieux, en quelque sorte, à la monarchie, qui faisait partie de ses plans politiques à lui.
Sachant qu'elle n'y a jamais mis les pieds, je crois.
C'est ça,
elle n'est jamais allée en Inde.
Non. Elle était en même temps fascinée par l'Inde, par la culture indienne. Elle a voulu apprendre la langue à un moment. Mais c'est vrai, non, elle a eu aussi la visite donc, de personnalité, mais elle n'est jamais allée elle-même. C'est toujours difficile de savoir si le fait que la reine avait un titre était important pour différents peuples. Mais c'est vrai que si on parle de l'Australie ou le Canada, par exemple, c'est vrai qu'il y avait des attaches culturelle importante entre les pays à cette époque. Et je crois que la reine était attachée à cette idée. Elle se voyait un peu comme la sorte de grande mère, en quelque sorte, de tous ces peuples.
Est-ce que l'Empire britannique est à son apogée?
À la fin, peut-être. C'est vrai que, comme d'autres empires européens à la même époque, la France est un bon exemple.
Oui, mais il n'est pas égal à celui de l'Empire britannique,
Non, ce que je voulais dire, c'est que différents empires sont en pleine expansion, en fait, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et il y a cette dimension qui s'ajoute pour les Britanniques, qui n'était pas vraiment là présent avant 1850, l'idée que le Royaume-Uni a une sorte de mission glorieuse.
Civilisatrice.
C'est ça, de partager, de donner même à ceux qui n'ont pas forcément envie qu'on le donne, la culture britannique, les institutions, la langue et la religion.
Et cet essor-là, il a à voir avec Victoria?
Ça se fait indépendamment d'elle, mais le fait qu'elle soit personnellement investie dans ce projet va faire qu'elle a des rapports plus proches. Encore l'exemple de Disraeli est un bon exemple dans les années 1870, où elle partage avec lui cette idée interventionniste d'un pays qui va...
Qui a une mission, quoi.
Qui a une mission, voilà. Visiblement, elle est très attachée à cette idée. Elle voit le Royaume-Uni comme une puissance bienveillante dans le monde qui va répandre la culture partout.
Et la religion, donc, vous avez dit.
Et la religion aussi, oui.
Elle est très attachée à cette dimension-là?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle exprime à plusieurs reprises qu'elle est très attachée à l'Église
anglicane.
Sans doute, comme beaucoup de ses compatriotes, elle a des préjugés contre les catholiques. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons qui fait qu'elle ne partage pas avec Gladstone, le Premier ministre libéral, ses idées plutôt progressistes par rapport à l'Irlande. Elle est plutôt méfiante par rapport aux catholiques irlandais. Elle les voit un peu comme, d'ailleurs, beaucoup de Britanniques à son époque, comme des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter, qui sont violents, etc. Dans ce sens-là, elle est typiquement victorienne, en quelque sorte.
Pour en revenir à cet empire britannique,
oui.
Quel est l'intérêt qu'elle porte à la dimension économique et à la richesse économique de cet empire?
Je dirais que, franchement, ce n'est pas vraiment quelque chose. Ce qui compte pour elle, c'est plutôt l'aspect qui est lié en fait à son rôle à elle, tout l'aspect symbolique, l'aspect culturel. Je pense que c'est là où Disraeli a été très malin, sans doute, de proposer le titre d'impératrice des Indes, parce qu'elle est ravie, visiblement. Elle commence à signer son nom différemment une fois qu'elle est impératrice.
Comment est-ce qu'elle signe?
Elle signe avec les initiales, avec VI pour Victoria Impératrice. Non, je pense que le côté économique l'intéresse pas beaucoup, franchement. C'est plutôt la dimension symbolique, religieuse, culturelle.
La suite de l'histoire, Véronique Alzieu.
Neil Davy, vous parliez de culture. Est-ce que la période victorienne est une période très... Est-ce qu'il y a énormément de créations musicales, littéraires, théâtrales?
Oui, c'est une période très riche et encore une fois, sur cet aspect culturel, il est difficile de parler de la culture victorienne parce qu'on est sur une très longue période. Donc, les historiens ont l'habitude de diviser en plusieurs sous-parties. Je dirais que c'est une période qui est riche dans différents aspects, mais c'est vrai que la dimension littéraire est très importante pour la poésie, pour le roman aussi.
Quels sont les grands noms à retenir, là, de cette période-là?
Sans doute, je vais sans doute offenser quelques-uns de mes collègues sur cette question, mais...
Prenons le risque.
Il y a bien sûr Charles Dickens, hein, qui sort peut-être de l'eau également sur le point de son renommée internationale. On a aussi, dans le domaine des arts ou dans la peinture, il y a William Turner, qui est plutôt au début du règne de Victoria, qui a été le sujet d'un film récemment. Et puis, d'autres romanciers, la liste est longue, hein, mais je pense qu'il y a, par exemple, George Eliot, donc c'est une femme, qui est écrite au milieu du 19e siècle. Et puis, à la fin du siècle, il y a peut-être le théâtre joue un rôle plus important. Oscar Wilde, peut-être, en est un bon exemple à ce moment-là.
Pour en revenir aussi au côté très culturel, alors des images d'Épinal, les Indes, ce sont aussi des produits nouveaux,
oui,
qui sont diffusés en Europe grâce au comptoir britannique, au comptoir des Indes.
Oui.
Et ça contribue aussi à l'économie puis à la culture.
Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui, je dirais, les historiens, c'est quelque chose qui est plus mis en avant par le travail des historiens depuis 20 ou 30 ans. Le fait que l'Empire joue un rôle... pas seulement là où on peut s'y attendre dans le domaine international ou militaire ou diplomatique, mais aussi, comme vous disiez, sur le plan de la consommation, sur le plan de la production artistique. Il y a des références à l'Inde ou d'autres territoires africains, par exemple, dans les chansons, dans les pièces de théâtre.
On consommait du thé bien avant, ou bien ça, c'est vraiment lié à cette période-là?
Ça commence avant. Mais c'est vrai que c'est le thé indien qui va prendre le dessus et va devenir aussi un prix plus raisonnable, donc un peu comme d'autres...
Ça se démocratise.
Voilà, c'est ça, comme on fait le sucre à une époque avant. Du coup, c'est vrai que dans ce sens, l'Empire est très présent dans la vie quotidienne des Britanniques, plus le fait, bien sûr, qu'il y a pas mal d'entreprises qui vivent, en fait, de ces colonies.
De cette exportation, importation.
Oui, à la fois importation, exportation, mais aussi, bien sûr, la présence coloniale des Britanniques, où il y a la production, bien sûr, des uniformes, des armes, tout ça, mais également toute la partie logistique qui est liée à l'Empire, qui est important aussi.
Le style victorien, en termes de mobilier par exemple, est-ce que c'est très reconnaissable?
C'est quelque chose qui a été très, très critiqué par la génération postérieure, notamment entre les deux guerres, je dirais. Il y a certains mythes qui sont arrivés à ce moment-là. L'idée qu'on disait, on commençait à dire à cette époque que les victoriens cachaient les pieds des fauteuils parce qu'ils estimaient qu'il fallait pas voir la chair, même en bois. C'est faux, hein, mais c'était le type d'idée qu'on associait aux victoriens. Et de manière plus générale, il y avait une sorte de refus au début du XXe siècle d'une sorte de décoration abondante chez les victoriens, où on avait tendance à mélanger les couleurs, mélanger les styles. Chaque surface d'une table, d'une commode devait être couverte.
Très chargée.
Très chargée, voilà. Mais en fait, je dirais que ça c'est plutôt fin 19e. Cela. Quand on voit par exemple la maison, le château que le prince Albert a fait construire sur l'île de Wight dans les années 1840, c'est un palais qui ressemble à une sorte de palais italien de la Renaissance, où en fait très épuré, avec très peu de décorations. Il paraît que ce qu'on voit maintenant, c'est plutôt ce qui s'est passé après sa mort, ou peut-être sous l'impulsion de Victoria. Toutes les surfaces ont été recouvertes, mais je dirais que ça montre bien qu'il y a différentes tendances, en fait, à différentes époques. Et peut-être c'est normal que l'époque juste après les victoriens avait tendance à penser que ce qui se passait juste à la fin de l'époque victorienne résumait en quelque sorte toute la période, qui n'était pas le cas, en fait.
On l'a dit et répété, Neil Davy, le règne de Victoria a duré presque 64 ans. Au tout début de son règne, l'Angleterre est dans une période de grandes mutations, avec des changements sur le plan politique, sur le plan économique et social. Comment les choses évoluent-elles tout au long de son règne? Et comment Victoria accompagne-t-elle le mouvement qui est en train de naître tout à fait au début de son règne?
C'est difficile de savoir comment Victoria a réagi par rapport à ces événements. On a souvent l'impression que la politique intérieure ne l'intéresse pas énormément. Elle est plutôt branchée, mais c'est aussi peut-être l'influence d'Albert sur la politique extérieure, l'Empire.
Son mari, donc.
Oui, son mari. On sait qu'elle avait de la compassion, était prête à mettre de l'argent dans différentes causes philanthropiques, y compris en Irlande, malgré le fait qu'on dit parfois qu'elle ne s'intéressait pas aux Irlandais lors de la grande famine de 1845. Dans ce sens-là, il y a ces typiques de son époque de mettre beaucoup l'accent sur l'intervention, l'action individuelle, en fait, pour agir contre la pauvreté, etc. On a beaucoup de mal à cerner exactement ce qu'elle a pensé des grandes mutations.
Parce que vous disiez que beaucoup s'inquiétaient quand même de savoir comment l'Angleterre et le Royaume-Uni, disons, allaient évoluer, dans quel sens.
Oui, et c'est vrai que par rapport à ces craintes-là, déjà dans les années 1850-60, la plupart des Britanniques sont plutôt rassurés par rapport à cela.
Ça ne s'effondrera pas.
Ça ne s'effondrera pas, il n'y aura pas de révolution. Il y a de plus en plus l'idée que la classe ouvrière est prête à s'impliquer dans la société de manière paisible, constitutionnelle, dans les syndicats, etc., plutôt qu'aller vers la révolution, qui était souvent la crainte des Britanniques, que la France allait en quelque sorte exporter sa révolution au Royaume-Uni. Donc il y a une sorte d'apaisement par rapport à ça. Ces questions un peu existentielles ne sont plus posées de la même façon.
Est-ce que la monarchie est véritablement menacée ? Certains se sont demandé si c'était encore moyen de diriger un pays qui avait quelque chose à voir avec l'époque moderne.
Jamais véritablement menacé. Il y a toujours eu, d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des républicains au Royaume-Uni, mais ils sont toujours obligés de constater que l'abolition de la monarchie n'attire pas beaucoup de soutien. Au 19e siècle, c'était sans doute plus grave pour la monarchie qu'au 20e siècle. Mais il n'y a jamais eu de mouvement organisé, hein. Ça n'a jamais eu vraiment d'impact dans les partis politiques au Parlement.
Est-ce que Victoria, d'après vous, a garanti la sauvegarde de la monarchie ou ça aurait pu se passer comme ça avec n'importe quel souverain ?
C'est toujours difficile de savoir.
Si, voilà, c'est ça. Quand on fait l'histoire.
Oui, et c'est vrai que les historiens s'amusent souvent à jouer ce jeu-là. Mais... je pense que, d'une certaine façon, le comportement de Victoria après la mort de son mari Albert a provoqué une crise. Le fait qu'elle s'est retirée de ses obligations politiques et protocolaires ont été mal vécues par une certaine partie de la population. On estimait que, certes, elle devait être en deuil pendant quelques années, mais il ne fallait pas...
Que ça dure éternellement.
Voilà, c'est ça.
Le fait est qu'après cette longue période de deuil et de retrait, elle revient quand même. Elle réinvestit son rôle. Oui. Et qu'elle réconcilie en quelque sorte les Britanniques avec la monarchie et avec elle-même.
Oui, et je pense que dans ce sens-là, on a évoqué le fait que ça soit une reine à jouer un rôle. Je pense qu'elle s'est projetée un peu dans l'idée, elle a parlé d'elle-même d'ailleurs, de la grande mère d'Europe. Elle avait beaucoup de ses enfants en place dans différentes maisons royales en Europe. Et je pense qu'avec l'Empire aussi, ça lui a donné une sorte de rôle au niveau international. Elle voyait en quelque sorte comme quelqu'un qui avait un rôle protecteur du pays, aller un peu avec les idées victoriennes sur les femmes. Et peut-être Victoria a pu en fait redorer un peu le blason de la famille royale à la fin du siècle.
Vous parlez des femmes de nouveau là justement et vous me disiez qu'elle était hostile au vote des femmes.
Oui, tout à fait.
Les suffragettes, c'est plus tard, c'est le début du 20e. Et elle meurt en 1901.
Même s'il y avait déjà un mouvement pour acquérir le droit de vote des femmes depuis les années 1860 à peu près. Dans ce sens-là aussi, Victoria est plus typique de son époque, même en tant que femme, que le contraire, parce qu'il y avait sans doute plus de femmes opposées au droit de vote des femmes que
de femmes favorables.
Voilà, c'est ça. Et là, il y a toute une série de raisons qui expliquent cela. Il y avait encore un poids idéologique très fort à l'époque qui estimait que les femmes n'étaient pas capables de raisonnement rationnel autour de ces questions politiques, qu'elles étaient mieux sensibles, artistiques, etc., mais pas forcément avec la sorte de pensée abstraite qui demandait la politique. Et puis, il y avait aussi l'idée assez répandue que, comme la femme devait obéir à son mari au sein du foyer, qu'elle n'avait pas vraiment de rôle indépendant politique. Et du coup, ça ne servait à rien de lui donner le droit de vote.
Quand elle meurt en 1901, Victoria a donc régné 64 ans. Ouais. Quelle est la réaction du peuple britannique ?
C'est vrai que c'est une réaction qui est tout à fait compréhensible. D'abord, de douleur, mais un sort de choc que le monde peut exister sans Victoria. Parce que pour la plupart des Britanniques, ils n'ont
connu qu'elle.
Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait, comme on disait avant, que surtout dans ces dernières décennies, je dirais, du 19e siècle, elle avait commencé à incarner en quelque sorte le peuple britannique avec une certaine identité du pays, notamment au niveau de l'Empire. Et du coup, le fait qu'elle ne soit plus là a posé des tas de questions par rapport à l'avenir, sans doute, du Royaume-Uni et son identité à l'avenir. D'autant plus que c'est une époque, fin 19e, début 20e, où les Britanniques commencent à réfléchir par rapport à ces questions-là, l'avenir du pays, le fait que les concurrents sur le plan économique sont de plus en plus présents, notamment les États-Unis, mais également l'Allemagne et la France. Certains commencent à dire, ou je dirais peut-être recommencent à dire, que peut-être pour un pays relativement petit en taille, à terme, l'Angleterre va devenir ou redevenir un pays plutôt de puissance ou de taille moyenne au sein de l'Europe.
Parce que l'expansion est allée au maximum ?
Oui, en tout cas, vu le contexte international avec la concurrence d'autres pays, oui, sans doute.
Est-ce qu'elle a préparé sa succession ?
Elle a essayé. En fait, depuis très longtemps, bien sûr, il y a le prince Édouard, hein, qui est le fils aîné et qui va être considéré à juste titre comme le futur roi. Parce qu'à cette époque, contrairement à maintenant, c'est le premier fils qui va régner par le premier enfant. Du coup, c'est sûr que c'est Édouard qui va régner. Il va du coup devenir roi assez tardivement, bien sûr, en 1901. Il va régner qu'une dizaine d'années à peu près. Ses parents ont essayé de le préparer. Visiblement, en tout cas, de leur point de vue, ils ont eu beaucoup de mal. Sans doute en partie parce que Albert et Victoria peut-être ne laissaient pas la place qu'ils devaient avoir, n'ont pas essayé de le préparer sur le plan, par exemple, de son rôle politique. Et du coup, il était en rébellion plus ou moins permanente contre ses parents.
Et dans l'ombre de sa mère ?
Sans doute, oui. Je pense que c'est inévitable. Hein. C'est un peu le problème, d'une certaine façon, qu'a le prince Charles actuellement. Le fait d'être en quelque sorte en attente pendant de longues années ne doit pas être facile à supporter.
Quel héritage a-t-elle laissé, d'après vous ?
Je pense qu'il faut parler de deux choses à ce sujet. Il y a d'abord le rôle qu'elle a joué pendant sa vie. Et comme on a vu dans ces émissions, je pense que c'est une question beaucoup plus complexe et riche qu'on pensait à une époque. Il y a des différentes périodes et stades de sa vie dans ce sens.
C'est à nuancer donc. Hein.
Oui, mm-hmm. Ouais, c'est ça. L'autre aspect qui est un sujet entier en fait, c'est l'image qu'on a de Victoria et ce qu'on pense des valeurs victoriennes, ou, etc. Tout au long du XXe siècle par exemple, comme on a vu, il y avait cette période, je dirais, qui a duré entre les années peut-être 1920 et 1960 où on avait tendance à estimer que toute l'époque victorienne était à rejeter. Que ce soit les idées politiques, religieuses, même la décoration. Et là encore, depuis, on a commencé à redécouvrir cette période. Il y a d'ailleurs un intérêt qui est toujours très, très présent dans la culture britannique, je dirais, dans les romans, à la fois les romans, les films, les séries télévisées sur cette époque. Ont toujours un très grand intérêt par les Britanniques. Donc, je pense que dans ce sens, la reine Victoria est encore très présente. C'est vrai aussi qu'elle est aussi présente sur le plan pratique. Il y a de nombreuses statues de pubs, de rues qui portent son nom. Donc, elle est toujours un peu partout de ce point de vue-là.
Merci beaucoup, Neil Davy, d'être venu nous parler donc de l'histoire de la reine Victoria et puis de cette ère victorienne. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Lumière Lyon 2 et que vous êtes donc un spécialiste de cette période de l'histoire du Royaume-Uni. Encore un très grand merci à vous.
Merci.